Avec ce soir l'ancienne ministre Roselyne Bachelot, bonsoir.
Bonsoir les garçons, bonsoir Alain.
Bonsoir.
Bonsoir Alain, donc je disais les élections européennes, les Français, enfin les Européens votent dimanche. Le Rassemblement National fait du scrutin un enjeu pour la suite du quinquennat, on va y venir. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que pour le moment, les sondages, les intentions de vote semblent figées d'ailleurs. C'est ce que nous montrait le dernier ELA pour BFM TV avec un Rassemblement National toujours très haut, qui fait le double de Valérie Ayer, talonné par Raphaël Glucksmann. Est-ce à dire, Alain Duhamel, que les jeux sont faits? Pardon pour l'expression, mais c'est plié.
Ben, je dirais que tout est fait, mais que tout n'est pas fait. Tout est fait dans la mesure où le phénomène qui va l'emporter de beaucoup, bon, c'est un triomphe du Rassemblement National, et ça sera la première fois dans notre histoire électorale, hein, depuis la première fois où on a voté, où on aura une extrême droite qui sera tellement puissante. Donc, oui, là, tout est joué et c'est un échec flagrant pour la majorité. Mais tout n'est pas joué parce qu'il reste encore un certain nombre de choses qui sont ric-rac d'ici à dimanche, d'ailleurs, qui peuvent encore bouger. Est-ce que, par exemple, la liste de Glucksmann passera ou pas devant la liste présidentielle? Ils sont vraiment presque côte à côte. Dans un cas, c'est une grosse défaite, une lourde défaite. Dans l'autre, c'est un vrai désastre en image. Bon, bien entendu. Est-ce que les Républicains, qui avaient fait un très mauvais score la dernière fois, feront un score équivalent, voire encore plus mauvais cette fois-ci? Pour un parti qui veut se reconstruire, qui veut ressusciter, c'est essentiel de savoir la réponse. Est-ce que les écologistes arriveront aux 5% et auront des députés? C'est quand même eux, jusqu'à présent, les avec le parti présidentiel, les principaux perdants.
On a toujours dit que c'était leurs élections.
Mais la dernière fois, ils avaient 13,5%. Cette fois-ci, ils ne sont pas sûrs d'avoir les 5%. Bon, pour eux, c'est aussi important et paradoxal, puisque la question de l'environnement a pris, depuis les 5 ans, une proportion absolument gigantesque. Et puis, est-ce que Éric Zemmour aura pour la première fois, depuis qu'il a fondé son parti, des élus ou pas des élus? Il est sur le fil.
Alors, il est de coutume de dire que les intentions de vote se cristallisent lors du dernier dimanche avant les élections. Là, donc, ça y est, on a passé le cap et on peut dire qu'il y a une assez grande marge de confiance sur les résultats qu'on note dans les différents instituts de sondage, d'autant que les instituts de sondage français ont la réputation d'être de qualité. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Rappelez-vous de ce qui s'est passé lors des dernières élections, les élections de 2019, où certes, le résultat des deux listes en tête, à la fois celle de ce qui s'appelait La République en marche, de Madame Loiseau et de Monsieur Déjà Bardella, avait été prévu à 1% près. Mais ce qui était intéressant, c'est que le résultat de la liste LR et de Monsieur Bellamy à nouveau et de Monsieur Jadot, Monsieur Bellamy avait été crédité de 13 et Monsieur Jadot de 7-8, et c'est exactement l'inverse ce qui s'est renversé. Absolument. Dans les derniers jours du scrutin. Ouais. Et ce qui a joué en faveur des écologistes, c'est le taux de participation. Parce que ça, on a du mal à savoir jusqu'au dernier moment quelle va être la mobilisation. Et ça peut jouer sur un certain type de liste, et en particulier la liste des écologistes. Et puis ensuite, effectivement, il y a des gens qui sont dans les zones dangereuses. Alain a très bien dit, est-ce que c'est M. Glucksmann ou Mme Ayer qui va être en tête? Est-ce que la liste... En tête du match qu'on appelle la petite finale.
Petite finale, exactement.
En tête de la petite finale. Et puis, il y a des choses qui sont qu'on ne voit pas encore. Mais quand on regarde les projections sièges, par exemple pour LR, si M. Bellamy est effectivement crédité de 7%, ça veut dire qu'il a 5 sièges, et ça veut dire que passent à la trappe Nadine Morano et Brice Hortefeux, qui sont en 6e et 7e position. Et là, je vous garantis...
Et donc, vous pensez qu'ils auront un effet mobilisateur, que cette perspective aura un effet mobilisateur?
Non, je pense à l'après dont on va parler, Alain, c'est-à-dire que Nadine Morano, éjectée du Parlement européen... Est-ce qu'elle rejoindra le Rassemblement National pour briguer un poste de député? Ça va bouger partout. Ça va bouger dans toutes les familles politiques.
Là, on a assisté à des débats quasiment tous les jours sur toutes les chaînes de télé. Est-ce que ça fait bouger les choses? Moi, j'ai l'impression que ça, finalement, chacun reste campé sur ses positions, ses éléments de langage. On entend d'ailleurs souvent à peu près les mêmes affrontements.
Est-ce que non, mais alors, je pense que une fois que la première semaine, pour le coup, de débat est passée, les choses cristallisent assez. Mais au départ, ça installe les images. Et par exemple, pour savoir si une tête de liste est attractive ou pas attractive, si elle apporte quelque chose ou si elle n'apporte rien du tout, ça, c'est dès le début que les gens se font leur idée. Et ensuite, l'idée que ce que représentent les différentes têtes de liste, bah les gens se mettent ça dans la tête et ils ne bougent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne bougeront pas leur vote, parce qu'ils peuvent préférer tel ou tel autre candidat, mais l'idée qu'ils se seront fait de la personnalité, de l'attractivité des têtes de liste, ça se fait très tôt, justement par ces débats.
Ah non, ce qu'on a vu, c'est quand même des choses qui paraissaient contre-intuitives. De l'avis des observateurs favorables à M. Attal ou à M. Bardella, tout le monde convenait que Gabriel Attal avait gagné le débat. Résultat des courses, M. Bardella prenait un ou deux points à suivre. Parce qu'en fait, les Français détestent les gens qui ont l'air de gagner. Ils aiment bien les losers, les Français. Ils se reconnaissent plus volontiers dans les losers que dans les gagnants, surtout quand ce gagnant fait partie du gouvernement. Et puis, tout le monde a salué les coups d'éclat de M. Bellamy.
Ça se voit pas dans
on l'a même présenté dans le post-débat qui a suivi le débat Attal-Bardella, on l'a présenté presque comme ça a été écrit dans certaines chroniques.
Le vrai vainqueur.
Comme le vrai vainqueur de ça. Résultat des courses, il perd un point juste à suivre.
Donc il ne faut pas écouter les commentateurs politiques.
Ah oui, je crois qu'il faut pas les écouter.
C'est embêtant.
Oui, parce que vous allez voir que nous, avec Alain, c'est complètement différent.
Non, mais. Et vous, Alain, fort de votre expérience, est-ce que vous pensez qu'il y aura une surprise dimanche?
Écoutez, le propre des surprises, oui, c'est qu'on ne les prévoit pas.
On peut les sentir parfois.
Non, mais.
Regardez les derniers.
C'est ce qu'on appelle une question à la con, ça.
Je sais. Bon, mais non, j'aime bien les poser.
Non, mais la question de savoir qui sera le deuxième ou qui sera le troisième, ça aura un impact politique, parce que ça sera un symbole. Donc ça aura une influence pour la suite.
Oui, mais un impact politique, ça veut dire qu'ensuite il y a une dissolution, un changement de Premier ministre. Il ne va rien se passer lundi.
Lundi, je pense qu'il ne se passera rien. Même jusqu'à la rentrée, je pense qu'il ne se passera pas grand-chose. Je pense qu'il n'y aura pas de dissolution, je pense qu'il n'y aura pas de changement de Premier ministre, je ne vois pas très bien l'intérêt d'un remaniement. Bon, peut-être qu'il y a un remaniement technique à un moment, mais de toute façon, tout le monde s'en
moque. Même si le score de Bardella est deux fois supérieur à celui de la majorité.
Oui, mais rassurez-vous, c'est pour mieux sauter. Parce qu'en revanche, à la rentrée, là, il se passera forcément des choses.
Alors justement, on va écouter Jordan Bardella qui continue de mettre la pression sur l'exécutif, sur le président de la République, ce qui va permettre de continuer notre discussion ensuite. Jordan Bardella, la tête de liste RN.
Quand on s'engage personnellement dans cette campagne, eh bien, on doit en tirer les conséquences. Une grande partie du vote qui se portera dimanche se portera d'abord et avant tout contre Emmanuel Macron, contre l'Europe de Macron. Et lorsque le parti en tête, qui n'a pas de majorité à l'Assemblée, se retrouve très largement dispensé, en tout cas, on le voit dans les intentions de vote, mais si c'est le cas dimanche dans les urnes, alors moi, je l'ai dit, si j'arrive en tête, je demanderai la dissolution de l'Assemblée nationale, parce que je crois que c'est parfaitement sain en démocratie que de se tourner vers le peuple lorsqu'il n'y a pas de majorité à la tête du pays.
Non. Oui, mais ça dépend du président de la République. C'est lui qui peut dissoudre. Oui,
c'est la raison.
Ça n'est pas Bardella.
Il s'est tellement engagé, Emmanuel Macron, que forcément, c'est lui qui fait son échec.
Les présidents s'engagent tous. Hein, aux élections européennes, ils disent tous que ce sont des élections européennes et pas nationales quand ils ont perdu. Il ne faut pas oublier que ça va être le troisième président de suite qui aura perdu des élections européennes. Et ça s'est toujours passé de la même façon. Il n'y a pas eu de changement, ni sous François Hollande, Sarkozy, ni auparavant sur Nicolas Sarkozy.
Et vous donnez rendez-vous à la rentrée?
Absolument. Parce qu'à la rentrée, je pense que tout se jouera au moment des votes budgétaires, qu'à ce moment-là, il y aura une succession de 49-3, et que là, je pense que LR ne résistera pas. Et à ce moment-là, Moi, je ne crois pas du tout, je ne sais pas ce qu'en pense Roselyne, mais moi, je ne crois pas du tout à ce moment-là à un gouvernement rafistolé avec des républicains.
Non,
etc.
Mais effectivement.
Et donc, ça risque d'être une dissolution.
Il n'y a que quatre scénarios. Il y a le remaniement, ça. Bon, effectivement, après. Il fêtera ses 5 mois, Gabriel Attal, les 5 mois de sa domination. On ne voit pas un remaniement substantiel se faire.
Non, surtout que c'est au bout de 6 mois qu'il a droit à. À être grand croix et à planter son arbre dans le jardin de Matignon.
Exactement. Imaginez une coalition avec LR. Si vraiment LR est dans les choux et ils n'ont pas intérêt et d'ailleurs Gérard Larcher a, j'allais dire, éteint cette flamme qui commençait à scintiller, dissoudre. C'est l'indifférence, dire que finalement le président de la République a été élu pour 5 ans, il s'est engagé dans les élections européennes. Ces élections européennes ne présagent absolument pas de ce qui peut se passer dans un scrutin national, parce qu'on sait très bien que le scrutin européen, c'est aussi un scrutin des fouloirs.
Ça donne pas forcément le résultat de la prochaine présidentielle.
Et ça ne donne absolument pas le résultat de la prochaine présidentielle. Ça, et je pense qu'on sera d'accord avec Alain sur ce plan-là.
Et le même Yannick Jadot, ce qu'il a fait à la présidentielle.
Exactement.
Mais depuis l'élection présidentielle, avec les législatives et ce qui se passe là, on est quand même sur une tendance. Il y a quand même un mouvement de fond, de contestation, de rejet du pouvoir en place.
On est au début de la plus grande tempête politique qu'on ait connue.
En Europe. Parce que c'est le mouvement, il est partout. Hein.
Oui, mais nous, c'est plus fort.
Oui.
Alors, on est les meilleurs pour ça, si j'ose dire.
Bon, avait été épargné quand même pendant très longtemps par ce mouvement. Oui, ce qui est très inquiétant, c'est de voir, par exemple, je pense à mon Ouest, qui a été, je dis mon parce que je l'ai représenté pendant longtemps, où vraiment on a été un bastion anti-extrême droite pendant des décennies. Oui, oui. Et là, le bastion a volé en éclats.
Oui, oui. Mais, il est probable qu'il y aura une motion de censure, au moment du budget. S'il y a une motion de censure, il y a de fortes chances que ça soit une dissolution.
Alors avant de voir ce qui se passera après, cette semaine, et là ça a commencé, on va beaucoup entendre Emmanuel Macron, des discours plusieurs discours par jour.
Oui, ça a commencé.
Télévisées demain soir sur TF1 et France 2. Zelensky à l'Assemblée nationale est également à l'invitation de la France. Ça fait beaucoup. Certains disent dans l'opposition, c'est trop. C'est-à-dire que c'est pas juste. C'est pas juste. Alors, il essaye de tout faire pour faire monter sa candidate, mais c'est vrai que est-ce que tout ça est bien démocratique?
Alors, à mon avis, il y a deux choses. Les discours autour du débarquement, franchement, tout président de la République les fait, surtout 80e anniversaire. Ça sera probablement la dernière fois qu'il y aura les derniers vétérans.
Oui, parce qu'ils sont centenaires.
Ben oui, justement. C'est les discours, ça va de soi. Et ils sont retransmis comme ils ont toujours été retransmis depuis 1984. Donc, c'est pas nouveau, sous François Mitterrand. Bon, l'intervention jeudi soir sur TF1 et sur France 2, je trouve que c'est plus critiquable. C'est plus critiquable parce que, bien entendu, il parlera d'international, il parlera de l'Ukraine, il parlera de Gaza, etc. Mais il parlera aussi des élections européennes. D'ailleurs, on nous l'a déjà dit, il en parlera.
Et l'ARCOM a d'ailleurs demandé à décompter.
Absolument, mais elle a raison. Ouais. Elle a raison.
Et là, ce sera décompté.
Dans le temps, il arrivait, par exemple, au général de Gaulle, d'intervenir la veille, le samedi soir, la veille du vote. Bon, mais là, franchement, je trouve que c'est beaucoup. Je trouve que ce qui aurait été efficace et démocratique aurait été qu'il fasse cette interview-là il y a un mois ou il y a 2 mois. Pour fixer les enjeux du débat.
Et puis surtout que la Valérie Ayer ou une autre soit choisie avant la fin de 2023.
Ils ont tout fait trop tard.
La campagne des présidentielles, la campagne des législatives et maintenant la campagne des européennes. Il y a une espèce de procrastination qui saisit la majorité actuelle qui est incompréhensible.
Comment ça, procrastination ?
C'est-à-dire une incapacité à la décision au moment du scrutin. C'est-à-dire à se lancer dans la campagne, à choisir des candidats.
Donc Valérie Ayer, c'est pas la meilleure des candidates, quoi.
Si, ça aurait
c'est
pu être la meilleure.
C'est pas la pire.
Il fallait la préparer.
Évidemment.
Et puis surtout. Elle est préparée, elle est députée européenne.
Mais ça ne fait pas de vous une chef de file de campagne.
Il fallait la choisir il y a trois mois.
Elle aurait fait des erreurs il y a trois mois, elle aurait été prête au moment précis.
En tout cas, elle avait beaucoup plus de chances de l'être.
Et pourquoi Gabriel Attal ne s'est pas sacrifié, ou en tout cas ne s'est pas mobilisé comme l'a fait Madame Meloni en Italie?
Vous savez que en Italie, le vote n'est pas absolument identique à la technique française. C'est 4 points au lieu de 5 pour se qualifier, mais surtout on a le droit d'écrire sur son bulletin le nom des personnes qu'on souhaite particulièrement voir. Et évidemment, comme elle est en ce moment populaire, il y aura son nom dessus. Bon, en France, on dit qu'on ne peut pas écrire.
C'était un bulletin nul.
Voilà. Donc, mais elle, de toute façon, c'est son intérêt, puisque elle est eurosceptique pour le moins, mais en même temps, elle a été maligne et elle s'est bien intégrée à la mécanique européenne. Donc elle a intérêt.
Ce sera intéressant de voir. Monsieur Macron sera un troisième président de cohabitation.
Si y a la dissolution.
Gérard Larcher a dit non pour l'instant.
Non, mais s'il y a la dissolution.
Ce sera le Rassemblement national.
Vous semblez évoquer sérieusement le scénario de la dissolution.
Absolument.
À ce moment-là, au
moment budgétaire.
Bien sûr.
Mais en ce moment, on ne peut pas dire que Emmanuel Macron soit très populaire. En réalité, la seule chose qui reste populaire dans cette majorité, c'est Gabriel Attal. Est-ce qu'il fallait pour autant l'envoyer aux élections européennes, compte tenu de ce qu'est l'opinion? Il est probable que ça aurait simplement abouti à griller la dernière cartouche.
C'est ça. Merci Roselyne Bachelot, merci Alain Duhamel.